Chapitre 4. Un cadavre. Comment cela se fit-il? On ne saurait le dire, mais le bruit que Marcel Favrin avait assassiné sa femme, qu'à 11 heures la police devait perquisitionner chez lui, faire des fouilles dans son jardin, s'était répandu dans toute la ville. Aussi, lorsque le groupe formé par les gendarmes, Croiserelle, les cantonniers qu'on avait finalement recrutés pour retourner la terre, arriva rue de la Comète, eut-il la surprise de voir déjà, devant la maison, une cinquantaine de curieux parlant avec animation. À une fenêtre du premier étage de la villa, Favrin, coiffé d'un béret basque, regardait l'attroupement avec une expression de défi. « Qu'est-ce que vous voulez ? » criait-il de temps en temps, d'une voix manquant de clarté. Personne ne lui répondait. Les bruits qui couraient sur son compte étaient encore par trop vagues. Il fit plusieurs fois un geste qui signifiait « Allez-vous-en !» Mais les curieux, conscients de la force que leur donnait le nombre, ne bougeaient pas, se contentant simplement d'éviter de se laisser prendre à partie isolément. Lorsqu'ils aperçurent, débouchant de la place, les gendarmes, le commissaire et les suiveurs, ils s'enhardirent. « Assassin !» hurla même l'un d'eux. Le visage de Favrin se congestionna. En tendant le poing dans la direction de celui qui venait de l'insulter, il répondit d'une voix perçante « Assassin toi-même !» Des murmures s'élevèrent, puis, comme le grand Marcel continuait de gesticuler dans l'embrasure de la fenêtre, appréhendant soudain que ce dernier, dans un accès de folie, ne fît feu sur eux, ils s'éloignèrent comme pour aller à la rencontre des gendarmes. Ce fut Croiserelle qui, le premier, adressa la parole à l'ex-cuisinier. « Ouvrez la porte, » dit-il sur un ton bon enfant. « On ne vous veut pas de mal. C'est une simple formalité. Dans une heure, vous pourrez aller déjeuner tranquillement. »« Qu'est-ce que vous me voulez tous ?» demanda Favrin sans bouger de sa fenêtre. « Nous voulons que vous nous ouvriez. Si nous vous obéissez, tout se passera le plus simplement du monde. Allons, un bon mouvement, Favrin !» Ce dernier parut réfléchir un instant, puis il dit « C'est bien, je descends. » Quelques instants après, Croiserelle, accompagné des gendarmes et des cantonniers, entrait dans la villa. Favrin s'était radouci. Il porta même instinctivement la main à son béret lorsqu'il se trouva en présence du capitaine de gendarmerie. « Vous voulez visiter encore une fois la maison ? » demanda-t-il au commissaire vers lequel il s'était approché parce que, confusément, il sentait que c'était encore de ce dernier qu'il pouvait attendre le plus de bienveillance. « C'est le jardin que nous voulons visiter, » répondit Croiserelle en regardant Favrin de cette même manière qui avait tant impressionné Auguste Delaune. Mais pas un muscle du visage du grand Marcel ne broncha. Il ne cligna même pas des yeux, ni n'entr'ouvrit la bouche, absolument comme si cette nouvelle le laissait tout à fait indifférent. « Faites !» répondit-il, comme quand on lui demandait pardon de l'avoir bousculé. Un cantonnier crachotait déjà dans ses mains. Un autre enlevait la veste de cuir qui le protégeait de la pluie. Le temps, d'ailleurs, avait changé. À la pluie avait de nouveau succédé le vent. Il ployait, dans le fond du jardin, les quelques lilas qui s'y trouvaient. Le ciel était d'un gris noir, et les nuages, poussés par la tempête, s'étiraient, se confondaient, sans jamais découvrir une parcelle d'azur. « C'est ici qu'il faudrait creuser, » dit le commissaire en désignant un endroit du jardin où le sol présentait un léger affaissement. Empoignant leurs pioches, les cantonniers se mirent au travail. Allaient voir abaisser leur outil d'un mouvement régulier, s'arrêtaient de temps en temps pour relever leurs pantalons. On eût dit qu'ils s'employaient à dégager quelques conduites de gaz au fin de la réparer. Il ne leur venait pas à l'idée que le geste paisible qu'ils accomplissaient avait pour raison la découverte d'un cadavre. Les gendarmes, le commissaire, les regardaient sans paraître accorder à leur geste l'importance qu'il convenait. Soudain, Favrin demanda la permission d'aller chercher une chaise. Il était pâle. De temps à autre, il portait la main à son menton, comme s'il eût voulu s'assurer qu'il était bien rasé. « Ne vous dérangez pas, » répondit Croiserelle, « je vais y aller pour vous. » Il se rendit dans la salle à manger. Par la fenêtre qui donnait sur la rue, il aperçut les curieux qui stationnaient en conversant à haute voix. Il prit une chaise, la rapporta. Mais quand il la posa juste derrière Favrin, afin d'épargner à ce dernier le plus petit effort, celui-ci affirma qu'il n'en avait jamais eu besoin. « Ça, c'est un peu fort !» dit à ce moment le capitaine de gendarmerie, en apercevant dans le verger contigu au jardin une vingtaine de personnes. Il fit quelques pas dans leur direction, puis, quoique vêtu de son uniforme, il leva les bras au ciel ainsi qu'une commère. « Voulez-vous bien vous sauver ? Vous n'avez pas honte de vous intéresser à un spectacle pareil ? » ajouta-t-il, alors que pour un empire, il n'eût pas cédé sa place. Les curieux reculèrent de quelques mètres, puis se rapprochèrent de nouveau, se gardant de faire des observations, espérant ainsi, grâce à leur silence, obtenir la faveur de rester. « Vous ne voulez vraiment pas vous asseoir ? » demanda Croiserelle. « J'ai la conscience tranquille, » répliqua Favrin. « Cela n'a aucun rapport. Vous pouvez avoir la conscience tranquille et être fatigué. » « Je ne suis pas fatigué. » Les cantonniers avaient déjà creusé une fosse de 50 centimètres de profondeur. Soudain, l'un d'eux sauta au dehors. « Venez voir ! Venez voir ! » cria-t-il. Les gendarmes et le commissaire obéirent sur le champ à cette invitation. Au premier moment, ils n'aperçurent rien. « Regardez !» dit le cantonnier en désignant de sa pioche une tache jaunâtre qui, à première vue, ressemblait à un galet. « Je crois que c'est le crâne !» balbutia-t-il. Il redescendit dans la fosse, cependant que les deux autres cantonniers en sortaient pour former, avec les gendarmes et le commissaire, cercle autour de lui. À petits coups légers, il se mit à piocher. En effet, c'était une tête humaine. Souillée de terre mouillée, reconnaissable uniquement par sa forme, elle émergeait peu à peu. Favrin, dit avec sévérité le commissaire, approche-toi. Le grand Marcel obéit, suivi aussitôt par le gendarme qui, de l'entrée, le surveillait. Approche-toi donc, surenchérit le capitaine. Les cantonniers s'étaient écartés pour lui faire place. Durant quelques secondes, un profond silence plana sur le groupe. On percevait le mugissement du vent dans les arbres et deux fois, tout le monde entendit nettement le sifflement d'un train. Soudain, par-dessus la maison, venant de la rue, des cris s'élevèrent, cependant que, se faufilant à travers les fils de fer barbelés qui clôturaient le verger, des curieux envahissaient le jardin. Le capitaine de gendarmerie s'avança vers ces derniers. « Attention à vous » cria-t-il. « Reculez ! Reculez !» Il appela les gendarmes et ce fut en usant de violence qu'on les chassa. Favrin n'avait pas desserré les lèvres. La tête baissée, les yeux fixes, il semblait hypnotisé par le cadavre dont la tête émergeait seule de la terre gluante. « Reconnais-tu ta femme ?» demanda Croiserelle. L'ex-cuisinier ne répondit pas. Deux gendarmes lui avaient déjà saisi les poignets. « Reconnais-tu ta femme ?» répéta le commissaire. Il ne répondit toujours pas. On dit que les Européens qui passent plusieurs années en Chine, en Amérique du Sud, reviennent de ces pays complètement changés. L'influence du climat, de la nourriture, transforme leurs traits et vont jusqu'à leur donner l'aspect d'indigènes de ces pays. Pourquoi un bouleversement plus important encore qu'un changement de climat ne métamorphoserait-il pas un homme ? En l'espace de quelques secondes, le visage de Favrin était devenu méconnaissable, non à cause de sa pâleur. Ce n'était plus celui d'un ex-cuisinier retiré à Viroflay, forte tête et gros buveur, mais celui d'un assassin. En cet infime laps de temps, d'un homme libre pouvant songer à l'avenir, il était devenu un monstre dont tous les journaux reproduiraient les traits. « Je te demande si tu reconnais ta femme !» demanda avec plus de douceur cette fois le commissaire. Comme précédemment, Favrin garda le silence. Alors, un des gendarmes qui assistait à la scène vint se planter devant lui. D'un léger coup de poing, il lui releva la tête. Favrin le regarda sans comprendre, avec des grands yeux étonnés. « Tu n'as pas entendu ce que vient de te dire le chef ?» Marcel Favrin ne fit même pas un geste de dénégation. « Ah, tu n'as pas entendu !» continua le gendarme. Il recula d'un pas et, avant que personne n'eût pu s'interposer, de toutes ses forces, frappa Favrin au visage. Ce dernier poussa un cri, chancela. Il serait tombé sans les deux gendarmes qui lui tenaient les poignets. « Assez, assez !» interrompit Croiserelle. « Qu'on finisse d'abord d'exhumer le cadavre !» Les cantonniers se remirent au travail. « Capitaine, j'ai à vous parler !» dit le commissaire au bout d'un instant. « Je voudrais que vous envoyiez un de vos hommes téléphoner à Paris. » qu'il demande qu'on prévienne immédiatement le service de l'identité judiciaire et un médecin légiste. C'est urgent. » Le corps de la malheureuse épouse était à présent presque entièrement dégagé. « Il faut avoir le cœur bien accroché pour faire un pareil travail, » observa un des cantonniers. En effet, malgré le froid, malgré le vent, une odeur âcre flottait autour de la fosse. Quant au cadavre, il était horrible à voir. En voulant le tirer de la terre avec laquelle il avait fait corps, la tête s'était détachée. On distinguait, de-ci, de-là, à travers les chairs complètement rongées, une côte, un fémur, une vertèbre, et, aussi invraisemblable que cela paraisse, ces os entreaperçus réconfortaient, dans la mesure où c'était possible, les assistants, car, au milieu de toutes ces pourritures, ils avaient quelque chose de net et de propre. « Mais elle était toute nue, » constata le commissaire. Il avait beau, avec un bâton, fouiller le sol, aucune trace d'étoffe n'apparaissait. « Je voudrais que vous dégagiez complètement les pieds, » ajouta-t-il. Ils apparurent, ces pauvres pieds d'une femme qui avait dû être jolie, ainsi que des racines recroquevillées, dépourvues de chaussures. Finalement, en s'aidant de vieux sacs pour ne pas le toucher avec les mains, le corps de Marie-Louise Favrin fut dégagé, morceau par morceau, et posé sur le maigre gazon de la pelouse. Un gendarme alla chercher une couverture dans la maison et recouvrit ses restes. Favrin avait assisté avec la même impassibilité à la fin de l'exhumation de sa femme. Pas une larme n'avait jailli de ses paupières. Pas un mot de regret n'était venu sur ses lèvres. Trois fois, il avait murmuré « Ce n'est pas moi !» C'était tout ce qu'un pareil spectacle avait pu tirer de son âme rustre. « Suis-moi, j'ai à te parler, » lui dit le commissaire. Dans cette même salle à manger, où, 3 heures auparavant, ils avaient eu leur premier entretien, les deux hommes étaient de nouveau assis, face à face. « Allons, Favrin, maintenant que ta femme est retrouvée, dis-moi ce que tu as fait de ton fils. »« Je suis innocent, » répondit machinalement le grand Marcel. « Tu es innocent ?»« Oui, monsieur le commissaire. » Croiserelle se leva, empoigna son interlocuteur par les épaules et, avec une telle violence qu'en le poussant, il renversa une chaise, il l'amena jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin. « Regarde, assassin !»« Je suis innocent !» répéta encore Favrin sur le ton d'une litanie. « Tu la vois, là, sous cette couverture ! Regarde, regarde donc !» Mais Favrin avait détourné la tête. « Et tu as l'aplomb de dire que tu es innocent ?»« Oui, oui, je suis innocent !»« Tu l'as enterré toute nue, là, à 10 mètres, dans la nuit du 7 au 8 janvier !» « Non, non, ce n'est pas vrai. Non, je ne l'ai pas tuée. » »« Elle s'est suicidée et ensuite elle s'est enterrée toute seule. » »« Je ne sais pas. » »« Et ton fils, où est-il ?» On apercevait par la fenêtre les cantonniers qui continuaient à remuer de fond en comble le jardin, cependant que la couverture écossaise semblait sécher sur l'herbe. « Alors ramasse la chaise et assieds-toi. » Mais, comme s'il avait peur des coups, au lieu de la ramasser à l'endroit où elle se trouvait, il la poussa du pied et ne se courba que lorsqu'il fut trop loin pour être frappé. « Je ne te battrai pas. Je veux causer avec toi. Où est ton fils ?»« Je ne sais pas. » Croiserelle garda un instant le silence. Durant ce laps de temps, il dévisagea le criminel. « Écoute, dit-il, il ne s'agit pas de financer. Tu es pris, c'est un fait. » « Eh bien, sois beau joueur, on t'en tiendra compte. Pourquoi l'as-tu tué, cette femme? Tu étais jaloux? Elle te trompait avec un employé de chemin de fer. »« Un employé de chemin de fer? Tu le sais bien, elle te trompait, tu es un homme comme les autres. Les femmes n'ont pas de faveur spéciale pour toi. Tu l'as surprise jeudi après-midi, à la nuit, dans le fond du jardin. Tu n'as rien dit, tu as attendu que ton rival soit parti. » « Grande scène, tu n'es plus maître de toi et tu la tues. »« Un crime passionnel, quoi ? Tu lis les journaux, tu sais qu'on est toujours acquitté pour ce genre de crime. »« Alors pourquoi aggraves-tu ton cas ? Avoue, dis-moi où est ton fils. Le maximum que tu risques, c'est 5 ans. »« Tu as 37 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, à 42, tu refais ta vie. » Favrin s'était ressaisi. Pour la première fois depuis la découverte du corps, il osa regarder le policier en face. D'une voix calme, il répondit « Monsieur le commissaire, je suis innocent. Le 7 janvier, j'étais en effet chez moi, et je peux vous jurer… » « Tu as bonne mémoire. Je serais incapable de te dire, moi, où j'étais le 7 janvier. »« Je ne l'ai pas tué, je vous le jure. Je suis parti le samedi pour Paris et je ne suis rentré que le lundi matin. C'est vérifiable. Quand j'ai quitté la maison, ma femme et mon fils étaient en parfaite santé. Quand je suis revenu, ils avaient disparu. Si on a tué ma femme, si on l'a enterrée dans ce jardin, cela s'est passé le samedi ou le dimanche. A-t-elle eu une scène avec son amant ? L'employé de chemin de fer venait-il chez moi ? Je l'ignore. En tous les cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ma femme était vivante lorsque je suis parti. Elle a d'ailleurs fait son marché ce jour-là. En interrogeant ses fournisseurs habituels, vous en aurez la preuve. C'est ce que nous verrons. Pour le moment, il faudrait que tu me dises ce que tu faisais le jeudi soir vers 6 heures chez le quincaillier. Je ne m'en souviens pas. La pelle et la pioche de la cabane à lapins ont été achetées jeudi soir. Tu ne vas pas nier cela ? C'est vrai, je ne me souviens pas du jour, mais je sais que j'ai acheté une pelle et une pioche. Pour cultiver tes 4 salades, j'avais l'intention de refaire mon jardin. Il est fâcheux que cette intention te soit venue juste au moment où ta femme a disparu. Il est également fâcheux pour toi qu'on la retrouve enterrée dans ton jardin. Je suis innocent, c'est tout ce que je peux affirmer. Tu ne veux toujours pas dire ce que tu as fait de ton fils ? Je suis innocent. Puisque tu refuses de parler, on va te conduire à la gendarmerie. Là, tu parleras peut-être. Le commissaire ouvrit la fenêtre, appela. Un instant après, 2 gendarmes pénétraient dans la salle à manger. Mettez-lui les menottes, dit Croiserelle, et conduisez-le à la gendarmerie. Je viendrai l'interroger dans la soirée lorsque j'aurai le rapport du médecin légiste. Et puis, enlevez-lui ce béret. Il a l'air d'un apache avec ça. Resté seul, le commissaire alluma une cigarette. Il s'apprêtait à retourner au jardin lorsqu'un brouhaha s'éleva de la foule massée devant la villa. « À mort ! À mort ! » criait-on de toutes parts. Il se pencha à la fenêtre pour voir ce qui se passait. Entourés d'une 40aine de personnes, les gendarmes étaient impuissants à défendre leurs prisonniers, sur lequel les coups pleuvaient. En l'espace d'une seconde, le commissaire fut sur les lieux de la bataille. « Assez ! Assez ! » cria-t-il en écartant les plus acharnés. Un justicier, plus violent que les autres, continuait à frapper le criminel. « Tu ne m'as donc pas entendu ?» demanda Croiserelle en le prenant par le cou. « Tu es sourd ?» L'énergumène, perdant toute mesure, se mit en demeure de frapper le commissaire. Alors, pour la première fois, le policier se départit de son calme. Doué d'une force peu commune, il ceintura son adversaire et, comme il l'eût fait d'un enfant, le jeta à 3 mètres. « Si tu bouges, je te fais conduire à la gendarmerie sur le champ. » Pendant ce temps, les 2 gendarmes s'étaient éclipsés avec leurs prisonniers. Impressionnés, la foule s'était tue.